bonsoir. Merci d'être venu. Donc ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Raymond Gervais, Jacinto Laguerra et Franck Lebovici. Et en particulier donc Raymond Gervais, qui donc présente actuellement cette exposition à Rosasquet, qui s'appelle Finir. Raymond Gervais donc, est à Paris encore pour quelques jours. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous avons la chance de l'avoir parmi nous, puisque il n'est pas souvent en Europe. Et donc cette exposition est la première exposition personnelle de Raymond Gervais à Paris. Donc très très brièvement, je vais un peu introduire nos trois intervenants pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc Raymond Gervais est un artiste majeur de la scène artistique canadienne. Son travail s'inscrit dans les grands courants de l'art contemporain par ses liens avec l'art conceptuel, la performance et l'exploration du son. Il a écrit également sur l'art et la musique, de même que sur sa propre pratique. Raymond Gervais réalise depuis 1973 des installations et des performances dans le champ des arts visuels. Intéressé entre autres par la phonographie et les musiques d'artistes, son travail de sonore à l'origine est devenu silencieux pour l'essentiel depuis 1990, donc le son visuel et conceptuel ayant pris la relève depuis. En 1976, il présente une première installation avec une série de tourne-disques, 12 plus 1 égale. En 1980, il participe à la 11e Biennale de Paris avec une œuvre audiovisuelle intégrant des séries de métronomes et de diapasons électroniques. En 1986, débute son interrogation de l'imaginaire sonore avec une première pièce en référence à Claude Debussy, intitulé « Les concerts de l'imaginaire », suivi en 1989 d'une deuxième installation en lien avec le compositeur Claude Debussy, « Regarde l'Amérique ». Donc Claude Debussy, « Regarde l'Amérique », c'est le titre, présenté à l'espace du 49e parallèle à New York. Divers personnages jalonnent sa pratique, Henri Rousseau, Hélène Keller, Virginia Woolf, Guglielmo Marconi, dont Samuel Beckett, dès 1989, avec une première œuvre ciblant l'écrivain musicien. L'œuvre s'intitule Samuel Beckett, piano solo, les disques au Borough. D'autres pièces autour de Beckett suivront en 90, 95 et 2006. Voilà pour Raymond Gervais. Jacinto Laguerra est professeur en esthétique à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne et critique d'art. Jacinto Laguerra interroge le langage et la perception à partir des expériences artistiques. Dans ses nombreuses publications, il est souvent question du mot, de la lettre, de la phrase et du signe comme objet de réflexion des processus artistiques. Cet ancrage concret à partir du vivant des œuvres est perceptible dans sa production écrite. Donc, il a écrit entre autres l'anthologie de textes de poètes pour Poésure et Peintrie, au sujet du travail de Gary Hill. Un livre qui s'appelle « Premier mot, dernier silence ». Il a également écrit un livre sur Michael Snow. Et il a notamment publié « L'image du monde dans le corps du texte » à la lettre volée, « Du mot à l'image et du son au mot, théorie, manifeste, document ». Et dans les prochains ouvrages à sortir, « Regard oblique, essai sur la perception » et « Préparation des écrits de Joseph Kossuth » édité par l'École nationale des beaux-arts. Voilà, et nous avons aussi Franck Lebovici, qui est à la fois artiste, auteur et théoricien de l'art et du langage. Il a écrit entre autres quelques storyboards, 9 plus 11, des documents poétiques et portraits chinois. Il développe depuis 2 ans un mini-opéra pour non-musiciens, projet conçu comme instrument de redescription des conflits de basse intensité. Ses performances se construisent sur la base de protocoles articulés à la musique expérimentale, la danse, les science studies ou l'analyse conversationnelle. Différentes séquences du mini-opéra pour non-musiciens ont été présentées à Paris, Berlin, Oslo ou Copenhague. Franck Lebovici a entamé en 2011 une recherche portant sur les formes de vie et les écosystèmes que produit une pratique artistique. Pour ce projet réalisé avec l'aide des laboratoires de Bervilliers, il contacte un grand nombre d'artistes et leur demande de produire un document sans contrainte de support permettant d'illustrer et de rendre compte de cette écologie de l'œuvre. Les éléments ainsi collectés et rassemblés seront rendus publics en 2012. Il est également un des fondateurs et membre actif de la structure d'édition Questions théoriques, qui se présente comme une agence informelle d'amis venant de disciplines diverses, philosophie, politique, esthétique, sociologie, poétique et critique littéraire. Voilà, donc cette rencontre va s'articuler sous forme d'échanges et de conversations. Mais moi, j'aimerais bien lancer quelque chose comme ça que j'ai puisé dans ce livre, donc qui est en fait un livre d'entretien entre Raymond Gervais et Nicole Gringas, qui est donc commissaire et critique. Et je trouvais que cet extrait faisait très bien écho, d'une part, avec l'exposition et d'autre part, avec un certain nombre de tes préoccupations actuelles. Donc je vais vous lire ce texte et ensuite je vous laisse la parole. J'ai un comportement de personnage beckettien au sens où je suis dans le retour obsessionnel sur des idées que j'ai déjà eues, que j'ai déjà énoncées et que j'énonce à nouveau comme de petites répétitions avec des variantes. Il y a dans cette présente réflexion une idée pour une autre pièce. Ça vient de ce qui est déjà fait, ça participe de ce qui est déjà fait au point où je me dis est-ce que je pourrais faire ça avant de mourir. Tout cela n'a rien de morbide, bien entendu, c'est un travail qui se fait dans le temps. Et c'est possible de le faire, mais évidemment, je crois que tout artiste procède de cette façon. Cela tient à la complexité d'une œuvre qui demande à être réalisée au moyen de ce qui est déjà là. Et c'est ce dont on discute ici. Voilà, donc je trouve que c'est une introduction intéressante, déjà par rapport à l'installation présentée.
Absolument,
ici.
Mais si je peux avoir ce livre d'entretien en pour titre, puisqu'à toute fin correspond. Et finalement, c'était le titre d'un vidéo que j'ai, le tout premier vidéo que j'ai fait en 1975. Et la pièce, qui est ma toute dernière pièce ici, s'intitule « Finir ». Ce livre, qui renvoie à 1975 par le titre, s'intitule « Puisqu'à toute fin correspond ». En fait, le titre complet, c'était « Commencer par, puisqu'à toute fin correspond ». Donc, je crois que quand on est dans une pratique, comme artiste, dans la durée, on fait un certain travail et on réalise un certain nombre de choses dans la durée, dans le temps. Et étrangement, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi, les choses reviennent. C'est ça qui est mystérieux. Et récemment, j'ai été le sujet, et c'est pas terminé, de deux expos qui font un petit peu la rétrospective de mon travail depuis 73 à Montréal. Et c'est la première exposition a eu lieu, c'est terminé maintenant à l'Université Concordia. Et ça portait sur beaucoup les années 70 et quelques pièces des années 80, mais on avait, disons, installé toute une série de vitrines qui balisaient mon parcours et dans lesquelles on retrouvait plein de documents, de la correspondance, des manuscrits, qui, quelque part, racontent un peu tout mon parcours. Et c'est certain que la deuxième exposition en question doit avoir lieu à l'automne qui vient, que cette expérience que je traverse présentement de un petit peu refaire tout mon parcours, ça m'a quelque part placé devant cette réflexion de finir. Qu'est-ce que c'est que de faire un travail? Qu'est-ce que c'est que de continuer? Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire et comment continuer? Et finalement, la pièce ici est autour de Debussy et Beckett et au sens où cette petite citation que tu lisais en tout début, Debussy, la première pièce que j'ai faite autour de Debussy date de 1986. Après, j'en ai fait une autre en 89, 90, je l'ai transformée. 93, j'ai fait encore une autre pièce autour de Debussy. Et Beckett, c'est la même chose. 88, 89, c'est les premières pièces. Après ça, j'en ai fait une autre en 95. Et en 90, j'ai fait une petite pièce à partir d'un piano pédagogique, un objet très beckettien pour moi tel quel, un piano silencieux en carton. Et donc, j'ai fait un certain nombre de pièces à la fois autour de Debussy et de Beckett, et c'est comme des compagnons de route, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce travail a été mis sur la place publique, il a été réalisé, il se passe quelque chose de particulier. Quand on fait un travail, on le met sur la place publique et les yeux des gens se posent dessus. Et là, la chose commence à exister, et nous, on commence aussi à avoir une relation particulière à cette expérience-là. Et donc, c'est quelque chose qui, me travaille tout le temps, c'est-à-dire que les pièces que j'ai réalisées dans le passé, les personnages sur lesquels j'ai travaillé reviennent. C'est comme des revenants. Ils reviennent dans mon imaginaire et quelque part, ils se manifestent de façon inattendue. C'est-à-dire que de façon très étrange, j'ai fait ce libelle pour Rosascape autour de la lettre S. Ce libelle, cette idée, en fait, elle était déjà incarnée dans un autre projet qui s'appelait Via Marconi, que j'avais réalisé, exposé, on l'avait mis en ligne en 1998. Et là, j'ai fait un premier travail autour de Marconi et de la lettre S. Ça s'intitulait S, écoute S. Je ne vais pas raconter tout ça parce que c'est une pièce assez différente du libelle finalement. Et je suis très content parce que le libelle m'a permis d'aller plus loin, de pousser beaucoup plus loin ce travail. Et bon, en travaillant à la campagne sur ce projet de libelle, le soir, cette pièce a émergé aussi en parallèle. J'ai commencé à prendre des notes à côté. Et en fait, ça s'intitulait Trois sonates. Et c'était l'idée parce que d'une certaine façon, pour moi, même si on n'a pas parlé de ça, mais jusqu'à un certain point, la section de Debussy est une pièce en soi. C'est une pièce autonome en soi. C'est l'orchestre silencieux de Debussy. Ça s'intitule Trois sonates. C'est une chose. Et cette pièce, cette idée des trois sonates, jamais composées, mais dont l'énoncé de l'instrumentation en fait à mes yeux une sorte de musique conceptuelle avant la lettre en ce qui concerne Debussy, ben, c'est revenu en travaillant sur le S. Et là, j'ai mis ça en parallèle avec Beckett et avec une phrase qui m'accompagne depuis longtemps, ça sonne comme dans l'imagination, l'os sonne. C'est tiré de l'imagination morte, imaginée. Et je me suis dit, oui, on a le squelette de la musique, on n'a que les instruments que Beckett nous a, que Debussy nous a laissés. Et ça sonne comment ce squelette de musique? Ça sonne comme un os, en fait. Ça sonne comme dans l'imagination, l'os sonne. Et finalement, cette espèce de vis-à-vis, étrangement, Beckett-Debussy, c'est ça. Sont deux personnages, encore une fois, sur lesquels j'avais travaillé auparavant. Ils ont émergé à nouveau l'été dernier en travaillant sur le libelle. Et j'ai mis ça de côté. J'ai rien fait avec ça. Et finalement, j'ai fait le libelle. Et puis quand tu m'as relancé pour l'installation, tu te souviens, je suis venu ici, j'ai visité les lieux, j'ai trouvé l'appartement magnifique, mais j'ai dit, je ne peux rien faire ici. C'est trop beau, puis je voyais pas je voyais pas ce que je pouvais faire. Mais en fait, je l'avais, j'avais l'autre pièce à côté. C'est ça qui est mystérieux. Et je suis retourné à Montréal, et toi, tu m'as relancé, et Chantal m'a talonné un peu aussi, en me disant, mais sûrement que tu peux faire quelque chose. C'est un lieu extraordinaire, puis il y a tout un contexte. Je suis évidemment très content de l'avoir fait, mais en fait, je ne réalisais pas que j'avais ça. Et donc, si je parle de ça, c'est que c'est très mystérieux comment les choses émergent et comment les choses reviennent. Et je crois qu'à partir du moment où je suis sûr que je ne suis pas le seul, où un artiste fait un travail, un écrivain, un musicien, qu'on met ce travail sur la place publique. Et si on a, comme par exemple pour Beckett et Debussy, j'ai une certaine fascination, une fascination très forte pour ces deux individus. Debussy, on oublie que, parce qu'aujourd'hui, il est passé à l'histoire et tout, mais quand Debussy imagine ses sonates, c'est en 1915 qu'il les imagine, il va composer la troisième, la dernière. Date de 1917 et peu plus. Donc on a En 1915, c'est l'avant-garde de Debussy. C'est comme Beckett. C'est un musicien radical à l'époque. Et Debussy, quand on lit sa correspondance, c'est un musicien, un individu tout le temps insatisfait par rapport à sa musique. Il y a beaucoup de choses en plan, énormément d'œuvres inachevées, qui est intéressant par rapport à la problématique de finir. C'est quelqu'un qui était extrêmement rigoureux et extrêmement exigeant pour lui-même. Et je crois que Beckett, même si c'est deux parcours très différents, c'est la même chose. Et finalement, comme Beckett et Debussy ont émergé à nouveau l'été dernier, je me suis dit pourquoi ne pas les mettre ensemble. Et le point de jonction pour moi, c'était le fait que Beckett, pianiste, jouait Debussy. Et que déjà, ça crée déjà un lien extrêmement fort, le fait que Beckett jouait sa musique. Il aimait Debussy, je crois qu'il aimait peut-être plus Schubert ou Beethoven, une certaine musique. Mais à une certaine époque, il jouait un peu de musique de Debussy. Beckett détestait l'opéra, mais il aimait Pelléas et Mélisande, par exemple. Et donc, je me suis dit, oui, je vais les mettre ensemble à partir de cette idée que Beckett joue Debussy et que quelque part, essayer d'installer une situation ici où le Debussy de la fin est joué par les mots du Beckett de la fin. Et donc, pour être capable de faire cette installation, de manière efficace par rapport à l'imaginaire des gens, il fallait que déjà avec Debussy c'est tellement ouvert que j'ai pas besoin de rien faire, j'ai simplement besoin d'installer l'orchestre et la partition, et on sait qu'on a trois sonates, on a tous les instruments, et puis il y a ce grand silence qui est installé ici, parce qu'au fond ce qui est installé c'est pas les lutrins, c'est ce qui est entre les lutrins et la partition. C'est ce grand vide, c'est ce grand silence qui est là. Et comme j'utilisais les textes de la fin de Beckett pour répondre ou entrer en résonance avec la musique de la fin de Debussy, j'ai dû faire la même chose avec Beckett qu'avec Debussy, c'est-à-dire essayer d'en enlever, retenir très peu de mots qui, quelque part, entrent en résonance avec l'œuvre de Debussy, autour de Debussy, plutôt. Et c'est le travail que j'ai fait. Les deux derniers textes de la fin de Beckett, le poème « Comment dire » et le petit texte en prose « Soubresaut », deux textes. J'ai retenu le titre du poème « Comment dire », uniquement le titre. Dans ce poème très court, le titre « Comment dire » se répète 8 fois, 9 fois avec le titre, si on veut. Et j'ai retenu de soubresaut, j'ai tiré de soubresaut quelques brimes, presque rien. Il fallait que quand on rentre ici, il y ait presque rien à lire. Et que ce presque rien, quelque part, répond en résonance avec le presque rien de Debussy, et qu'un échange puisse opérer. Et quelque part, dans notre déambulation, il y a un espace, comme vous avez vu, Beckett, il y a un espace Debussy. Il y a le point de jonction qui est là, qui dit « Beckett joue Debussy » et on circule de Beckett à Debussy, de Debussy à Beckett, et on est dans une sorte de déambulation qui est une marche en fait, parce que je propose également une performance pour nous, anonyme, facultative, où on peut marcher de la tombe de Beckett au cimetière Montparnasse à celle de Debussy au cimetière de Passy. Et c'est également en vis-à-vis en écho avec cette marche qu'on fait à l'intérieur dans l'espace ici, de l'espace de Debussy à l'espace Beckett et ainsi de suite. Et dans ce, je crois que c'est dans ce déplacement que se construit un peu cette pièce où, encore une fois, il n'y a presque rien, mais ce que j'ai retenu, ça n'est pas spectaculaire, mais c'est des mots qui, quelque part, semblent en intime proximité avec l'environnement de Debussy. Donc, c'est un tout petit peu, en résumé, ce que... En fait, chaque personne qui est ici, évidemment, composer cette pièce, parce que cette pièce, c'est une partition sur lutrin. Et c'est ça l'idée aussi, c'est qu'on rentre et on joue la partition. C'est une partition mise en espace à l'échelle du lieu. Et marcher aussi de la tombe de Beckett à la tombe de Debussy, c'est également jouer la partition. C'est également... alors cet aspect, et je vais vous laisser la parole, mais cet aspect de l'installation renvoie à l'idée de faire quelque chose. Parce que comment dire, ça veut dire comment faire, comment, comme le dit Beckett, what is the word, quel est le mot pour me permettre de finir, pour me permettre d'aller au bout de ce poème ou d'aller au bout de ce... Du texte en cours, qui sera peut-être le dernier texte, et à la fin, finalement, finir est un pendant à faire, d'une certaine façon, dans cette installation. Comment dire, c'est-à-dire faire quelque chose, ce qu'un artiste fait, il fait un certain travail dans la durée, et aussi, quelque part, comment finir quand on... Et ce comment finir, Beckett en parle de façon extrêmement claire dans son dernier poème. C'est tellement flagrant. D'ailleurs, au tout début, apparemment, Beckett l'a intitulé « Comment dire », mais il avait opté pour « Quel est le mot ?» C'est pour ça qu'on a « What is the word ?» Et finalement, il a rayé ça et il a dit « Comment dire ?» Et depuis que je suis arrivé et que... Je ne portais pas attention auparavant, mais je remarque autour de moi tous les gens qui utilisent « comment dire ». Et ça revient tellement souvent. Aussitôt que quelqu'un dit « comment dire », ça me frappe. Effectivement, cette expression est très fortement dans la vie courante, quoi, utilisée par tout le monde. Alors, il y a « faire quelque chose », « finir quelque chose » et... c'est le Beckett de 89 qui est là. En fait, soubresaut, ce qui est Steering Still, c'est à peu près de 83 à 87, traduit en 89 sous le titre soubresaut. Et What is the Word, c'est 88-89, en français en premier, en anglais en deuxième. Et donc, c'est le Beckett de la fin, le Debussy de la fin. On pourrait... parler de la fin de leur vie comme individu, de la fin de leur œuvre, qui est une autre chose, qui est pour chacun d'eux comment aller au bout et comment finir la chose, alors que la fin de leur vie, ben, évidemment, ça se finit, on n'a pas le choix, hein. La vie se termine et puis l'œuvre, à la limite, on pourrait imaginer qu'on puisse arrêter soi-même, qu'on puisse décider d'arrêter et de dire c'est fini. Et c'est aussi cette question. Beckett est mort dans les 80, je pense qu'il avait 83, Debussy avait 55 ans, et il était atteint d'un cancer, il ne savait absolument pas qu'il avait un cancer, semble-t-il, et voulait farouchement continuer. Et évidemment, il est parti, ça s'est terminé pour lui. Mais dans le cas de Beckett, par contre, on peut dire que, oui, en 89, Beckett était conscient qu'il allait mourir. Et ici, dans ce recueil des derniers textes de Beckett en anglais, il y a une référence à ça où on mentionne que il y a une allusion à la dernière ligne du dernier ouvrage de James Joyce dans le texte le dernier poème de Beckett, A Faint, A Far Away. C'est encore la même chose. C'est Joyce qui refait surface. C'est quelqu'un du passé, mais qui l'accompagne tout le temps. Et là, Joyce réapparaît à la toute fin de sa vie, comme d'ailleurs dans Soubresaut. Il y a cet unique personnage qui s'appelle Darley, qui est un docteur qu'il a connu en 1945 quand il était avec la Croix-Rouge irlandaise à Saint-Lô. Et ce personnage, ce docteur-là, sûrement beaucoup impressionné, puisque dans son tout dernier texte, à la fin de sa vie, tout d'un coup, Beckett se souvient de ce personnage. Il l'évoque deux fois, ce qui s'appelait Darley. Et ici, pour ce qui est de son tout dernier poème, apparemment, Beckett avait marqué sur la première page du manuscrit de What is the Word, dans la marge, Keep for End. Et on me laisse entendre que Beckett aurait dit, même si je survis, parce qu'à la fin, il était devenu très malade, et même si je survis, que je continue d'écrire, je voudrais qu'on se souvienne que ce texte, je veux qu'on le garde pour la fin, et qu'on sache qu'à la toute fin, j'étais encore en train de chercher le mot. Que je ne trouvais pas le mot pour finir. Et donc, c'est un peu de tout ça dont il s'agit dans cette installation ici. Je crois que j'en ai assez dit. Bien entendu, il n'y a pas de musique. On ne diffuse pas de musique. Ça serait, évidemment, ça va de soi. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas d'image. Il n'y a que des mots. Le lutrin, pour moi, est un peu comme un personnage, une sorte de colonne. C'est vertébral avec une tête qu'on pose dessus qui est une phrase, ou qui est un mot, ou qui est un instrument. Et donc, peut-être que chaque lutrin est aussi un instrument, mais c'est aussi le musicien. C'est une sorte d'orchestre au garde-à-vous, dans l'attente de quelque chose, que cette musique arrive avec cette... On attend cette musique de Debussy qui n'arrive pas et qui n'arrivera jamais. Et je ne sais pas pourquoi ce genre de... On a parlé de ça un tout petit peu la dernière fois, à savoir la question de l'inachevé. Et pourquoi... Je sais que je ne suis pas le seul qui a une fascination pour les œuvres inachevées, les restes, les fragments, et en particulier quand quelqu'un est rendu au bout qu'est-ce qu'on peut trouver. Récemment, Chantal m'a offert un livre fabuleux sur Edgar Varèse. Et Edgar Varèse, qui a été l'avant-garde après Debussy, mais qui a rencontré Debussy, que Debussy a parrainé, et Varèse qui vénérait Debussy. Et à la toute fin de sa vie, apparemment, Varèse avait un projet de composer une sonate pour hautbois et percussions. Et c'était une commande d'un oboïste américain. Et donc, on est dans les années, début des années 60, là. Et le texte dans ce bouquin sur Varèse est de l'oboïste, je crois qu'il est hollandais, Heinz Harlager. Et Harlager qui aurait rêvé jouer cette musique pour hautbois et percussions de Varèse. Pour lui qui est oboïste, c'est comme un... Alors, il parle de son petit texte, porte là-dessus. Il dit à quel point cette simple idée que, on sait que c'est vrai parce qu'il y a un échange entre l'obériste américain et Varèse, et puis Varèse qui remet tout le temps ça, mais Varèse qui est aussi trop malade à la fin et qui n'arrive pas à faire à composer cette musique. Et Holleger en parle avec une sorte d'émotion de cette œuvre qui n'existe pas, mais elle existe au sens où on sait que c'est pour hautbois et percussion. Et lui, il est obériste, et il termine son petit texte autour de cette sonate imaginaire dont il dit, j'essaie de l'imaginer, en se référant à cette œuvre de Debussy pour hautbois, corps et clavecin, de la fin, la quatrième sonate. Et Holleger dit, plus ou moins, la boucle est bouclée. Il parle d'une sonate de Varèse qui n'existe pas, et il termine avec une sonate de Debussy pour hautbois, corps et clavecin, qui n'existe pas non plus. Et il est entre ces deux rêves, ces deux pôles de fascination qu'il travaille, quoi. Ça travaille son imaginaire, il est comme possédé par ça. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui me fascine tant, et je suis exactement comme lui, et je crois comme plein de gens, par rapport à une chose qui aurait pu être et qui ne sera jamais, mais dont on connaît suffisamment d'éléments de base, dont on connaît des données qui nous permettent de l'imaginer ou d'imaginer quelque chose, parce qu'évidemment, je ne prétends absolument pas qu'on puisse imaginer la musique. Je ne sais pas ce que quelqu'un peut faire avec ça. On est devant cet orchestre. Tout est vrai ici. Ces trois sonates, c'était vraiment les instruments, les paroles de Beckett. Tout s'est tiré de... Vraiment, j'ai même respecté rigoureusement la ponctuation. Donc c'est ça, on est dans une situation où quelqu'un m'a fait remarquer aussi que cet espace, évidemment, est très en lien quelque part avec l'environnement de Debussy. Ça aussi, ça fait partie de ces choses bizarres, et parce que pour moi, un aspect aussi du travail qui est intéressant, c'est la dimension énigmatique des choses. Et pourquoi cette pièce a finalement atterri ici? Et c'est comme l'espace idéal, privilégié, où on dirait qu'on est en lien avec l'esprit de Debussy dans ce contexte, alors que cette pièce dans un espace, un cube blanc, n'aurait pas du tout le même impact et le même potentiel au plan onirique, si on veut. Et j'essaie de ne pas l'expliquer. Je ne pense pas qu'on puisse expliquer. Je n'explique pas le travail, bien entendu. J'essaie autant que possible de dire ça. C'est-à-dire, pour reprendre le dernier poème de Beckett, comment dire, qu'est-ce qu'il y a ici? Ceci, c'est ça qui est là, c'est cette chose-là, c'est cette... Et là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire qu'on peut voir que... Excuse-moi. Terminant en disant peut-être qu'on peut... C'est-à-dire qu'à la limite, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire... Il n'y a pas de musique, et puis il n'y a pas de... Il y a comme une sorte de... Une sorte de grand vide, une sorte de presque rien. Mais c'est quand même ça, c'est quand même cette chose-là. C'est ceci, ici. C'est là. Et Ça aussi, je trouve que, évidemment, c'est sûr que je n'arrête pas de voir des recoupements avec Debussy et Beckett, parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que lui. Vous pouvez me dire, on pourrait prendre un autre écrivain, peut-être en lien avec Debussy, puis là, il y aurait un autre dialogue, je ne sais pas, Baudelaire, par exemple. Et ça fait partie des choses bizarres qui m'arrivent. Je suis allé en librairie et je regardais les nouveautés, j'étais à la FNAC. Puis là, je suis tombé sur un livre, un essai sur Baudelaire, d'un philosophe dont le nom m'échappe, mais qui, le titre, c'était « Ce monde va finir ». C'est un texte tiré de Fusée, « Ce monde va finir ». Et effectivement, il y a l'individu qui finit, il y a l'œuvre qui, à un moment donné, va se finir, bien que je pense que ça ne se finit pas. En tout cas, Debussy et Beckett, ça continue, certainement. Mais en dehors des individus et des œuvres qu'ils font, ce monde aussi va finir. C'est tout à fait exact. Finir, c'est doit être aussi envisagé dans cette totalité du finir, qui est la volonté des individus, mais aussi ce qui échappe à notre volonté, qui fait que ce monde, là où on est, ce monde est appelé à finir aussi. Et donc, c'est une autre problématique. Je pense que je suis en train de... déraper ou divaguer trop
longtemps. Oui, moi je vais peut-être dire deux, trois mots, oui. Parce qu'évidemment, après tout ce qu'a dit Raymond, il y a aussi la question comment continuer. Alors, tu as dit déjà beaucoup, beaucoup de choses sur le travail. Peut-être, vous savez, j'ai écrit le petit texte, hein, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous l'avez eu par mail, mais donc j'avais fait ce petit texte pour qui s'appelle « Comment définir ?», donc un petit jeu de mots sur à la fois la volonté de ne pas définir justement cette idée de finir, mais en même temps de définir, donc de ne pas finir. Alors là aussi, parmi les choses assez bizarres qui sont arrivées, puisqu'en fait j'avais la demande de la part d'Alexandra, puis bon, par toi, de faire ce petit texte, il se trouve que j'ai écrit un autre texte pour un autre artiste, qui est Vittorio Santoro, et dans une des œuvres qu'il a faites, il y a une photographie de Samuel Beckett, en fait, c'était une exposition qui était ici. Enfin, pas de Samuel Beckett, de la tombe de Samuel Beckett. Donc on retrouve finalement étrangement des choses, et il s'intéresse beaucoup aussi au langage. Donc c'est assez étrange de retrouver des choses énigmatiques. Alors je vais pas répéter ce que j'avais évidemment fait, qui est accessible là par les personnes qui sont là. J'aimerais peut-être simplement développer deux, trois choses, puisque j'avais essayé d'expliquer que tu avais eu cette subtilité de ne pas commencer quelque chose, donc de ne pas finir ce que les artistes en question avaient laissé, disons, en suspens, en même temps de ne pas faire de propositions trop, disons, déterminées, trop précises, donc ça reste en effet là aussi en suspens, mais en même temps de proposer quelque chose. Donc il y a à la fois un geste du faire, quelque chose qui est dans la pratique, dans la présentation, dans la réalisation, donc par des mots même très succincts, très minimaux. Et en fait, ce qui m'a aussi un peu intéressé, que je n'ai pas trop développé, c'est la question, enfin deux questions en fait, c'est la question de l'imaginaire, puisqu'en fait tu as évoqué quelques éléments ici, et qui est une question évidemment qui est assez simple et évidente, et qui revient beaucoup dans la pensée artistique ou philosophique, hein, de l'imaginaire des artistes, de l'imagination artistique ou esthétique ou plastique, hein, c'est une sorte de lieu commun, disons, de l'imagination et des recherches faites par les esthéticiens. Alors, ce qui est plus rare, alors ça c'est pour des raisons sans doute culturelles aussi et liées plutôt à l'Occident, c'est qu'on parle peu, à part évidemment les personnes qui travaillent vraiment sur la musique ou qui sont musicologues, de l'imaginaire sonore, de l'imaginaire de la plastique du son. Alors j'avais lu dans un texte sur toi que quelqu'un parlait de ton travail comme d'un travail sur l'imaginaire du son ou l'imaginaire sonore, donc ce qui est assez juste. Alors évidemment, ici, contrairement à d'autres pièces anciennes dont tu as rapidement évoqué quelques points, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de son, donc on est en quelque sorte sollicité par cet imaginaire verbal, puisque c'est des mots qui sont là, donc il y a aussi cette pièce qui est derrière, Raymond n'en a pas parlé, c'est en fait un petit montage, on peut dire, de textes à la fois de Beckett, enfin de titres de pièces de Beckett, de titres de pièces de Debussy, par exemple La Mer, et donc en fait il a repris comment c'est, bon, Mal vu, mal dit par exemple, et Raymond a essayé de faire jouer en quelque sorte là aussi des correspondances entre les titres La Mer, par exemple Berceuse, Mal vu, mal dit, Brouillard, donc des jeux comme ça de langage, et donc en lisant, alors ça c'est peut-être plus évident ici que dans les parties qui sont là, mais peut-être c'est moins vrai pour les mots de Beckett, c'est qu'évidemment on a tout un imaginaire qui apparaît ici. Et qui en plus joue évidemment sur l'imaginaire, évidemment quand on connaît Debussy, sa musique, ou quand on connaît Beckett, donc on est un peu plongé dans leur propre imaginaire, mais comme ça passe par ce verbal, par ces mots, qui sont en plus des textes, enfin les titres de Debussy sont assez bien choisis, hein, Clair de lune, c'est une partie d'une sonate pour piano par exemple, donc il y a des choses qui sont évoquées par rapport à des instruments qu'on a pu entendre, qu'on a pu connaître, ou Beckett quand on a pu voir des pièces ou des choses écrites, et toute cette imagination en fait qui est transmise verbalement, qui est lue, qui n'est pas dite, puisque là il n'y a pas non plus de choses qui sont dites ou préenregistrées que tu as voulu faire aussi, donc on est amené à s'imaginer des tas de choses grâce à cette, disons, substitution du verbal qui vient se substituer au son, mais qui est prononcé en quelque sorte intérieurement, puisqu'on se dit ces paroles, on se dit ces phrases qui sont référées par ailleurs à l'écriture de Beckett ou à l'écriture de Debussy. Alors il y a une chose assez étrange aussi, bon, qui joue aussi sur cet imaginaire qui est assez frappant. Alors c'est moins le cas évidemment pour Debussy, mais qui est vrai pour Beckett, c'est qu'il était parfaitement bilingue, et donc il écrivait en français ou en anglais, et beaucoup de ses textes sont auto-traduits. Et en fait il y a deux œuvres, c'est-à-dire il y a la même œuvre de Beckett en anglais, et puis comme il traduisait ou en français ou inversement. Donc on a deux choses différentes, et par exemple ce que tu disais sur comment dire, c'est une chose assez courante en effet dans la langue française, quand on essaie d'expliquer à quelqu'un comment dire, donc on cherche, donc c'est une formule assez courante. En anglais c'est complètement autre chose, c'est what the word qui serait l'équivalent, mais c'est tout un autre imaginaire en fait qui se met en place. Donc alors évidemment tu aurais pu imaginer de faire quelque chose complètement en anglais, une version anglaise, une version française, y compris ici, parce qu'on a eu des imaginaires tout à fait différents si on transpose. Dans les traductions, je me suis dit ça après coup, c'est vrai que Beckett faisant ses auto-traductions, on aurait pu avoir cette chose. Et donc ce qui m'a intéressé aussi, c'était bien cet imaginaire, disons sonore, hein, comment est-ce qu'on peut se représenter cet espace du son, qui est sans doute quelque chose qui est très difficile. Alors c'est peut-être plus simple pour des gens qui sont musiciens, qui ont une pratique de la voix par exemple, ou qui ont eu des pratiques de théâtre, hein, donc il y a tout un trait sur la mémoire, sur l'apprentissage, sur la mémorisation, des mots, des rythmes, des sonorités, mais il y a tout cet espace imaginaire du son qui apparaît et qui donc est sollicité ici. Donc en fait, ce qui est en quelque sorte notre rôle, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'être ce rôle d'exécutant, et ça c'est une chose qui en fait est vraie de la plupart des œuvres d'art, c'est une vieille idée aussi des esthéticiens, qui est que le spectateur ou le récepteur, hein, celui qui va voir une exposition, exécute l'œuvre, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas l'exécution simplement du pianiste qui joue la sonate, c'est que même pour les arts plastiques, quelqu'un qui rentre dans une salle, qui regarde quelque chose, exécute l'objet, c'est-à-dire il faut le mettre en route, il y a une sorte de performance qui est faite par nous, et donc là on est doublement en quelque sorte sollicité, puisque on est obligé de se lancer un peu dans cet imaginaire de ces sonorités, par exemple quand on regarde piano ou les instruments qui sont là, donc il y a des choses qui apparaissent, des images mentales qui apparaissent, et donc il y a une exécution à la fois donc de son par des mots, c'est ça qui est des mots qui n'ont pas à voir avec les sons, c'est-à-dire qu'en fait le son d'un piano, on ne voit pas comment on pourrait le retransposer en mots si on devait expliquer ce qu'est le son de piano, et quand on a fait de la musique, on sait très bien que, moi j'en ai fait par exemple, donc on sait très bien la difficulté qu'a le professeur à expliquer par des mots comment il faut jouer telle chose, ou la touche, ou la façon de faire vibrer une corde, donc c'est très difficile de verbaliser quelque chose qui est de l'ordre d'un son intérieur, mais aussi d'un son imaginaire. Et je pense que cette dimension-là, on la retrouve dans ce travail que tu as fait ici, mais dans beaucoup d'autres choses que tu as faites par ailleurs, qu'elles aient du son ou pas, d'ailleurs, hein, cet imaginaire sonore. Et je pense que là, il y a tout un jeu de transposition de ce verbal au son, et du son au verbal, et parfois aussi, donc, ce qui est frappant, c'est que c'est du verbal qui n'est pas forcément sonore aussi, puisque tout à l'heure, tu disais, il n'y a presque rien, donc c'est vrai qu'on est dans le presque rien, c'est pas le néant, c'est pas le rien du tout, enfin il y a quelque chose qui est là, et donc et ce qui m'amène un peu à cette deuxième chose que j'avais un peu signalée, que j'ai pas trop développée, mais qui est assez intéressante aussi, enfin, à mes yeux, quand je regarde ce genre de travail assez conceptuel et qui joue beaucoup sur cette question de l'imaginaire, c'est la question du vague, enfin, de la vagueur, en fait, hein. La vagueur, alors c'est un terme un peu étrange, mais qui existe, hein, c'est la traduction d'un terme du philosophe américain Peirce, qui a utilisé ce terme qui s'appelle vagueness en anglais. Il a même consacré un article entier dans un dictionnaire à cette notion. Et Peirce a développé cette idée de la vagueur des choses, hein. Les choses sont vagues. Et alors c'est quelque chose qui est lié à sa philosophie, on ne va pas rentrer dans cette thématique pour l'instant, mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette idée du vague, qui est liée aux choses, c'est-à-dire que les choses elles-mêmes sont vagues, alors non pas parce que justement nous manquons de langage ou de concept, ou de difficulté à les cerner, à les comprendre, à les appréhender, c'est que les choses elles-mêmes sont vagues en elles-mêmes, c'est-à-dire réellement. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons toutes les difficultés, physiologiques ou conceptuelles, c'est que les choses sont réellement vagues, c'est-à-dire que alors, ce qu'il appelle le vague, justement, ce n'est pas le rien, ce n'est pas le néant, ce n'est pas le rien du tout. Le vague, c'est quelque chose qui est suffisamment déterminé pour qu'on puisse voir des couleurs, des formes, etc., mais suffisamment indéterminé pour qu'on puisse avoir cette espèce d'imagination, d'imaginaire qui joue. Et donc, je crois que tes œuvres, enfin surtout celle-là peut-être, jouent beaucoup sur cette vagueur, c'est-à-dire c'est à la fois déterminé, parce qu'il y a des mots, il y a des sons, des partitions, des choses qui sont évoquées ici, et en même temps on est dans une sorte d'indétermination qui nous permet d'être un peu les exécutants, disons, très spécifiques, très individués, chacun va avoir son imaginaire personnel, et donc on va exécuter ces choses-là parce qu'il y a ce jeu d'indéterminé et déterminé, donc tu as à la fois joué sur la subtilité de faire quand même quelque chose, de faire une proposition, et en même temps de ne pas être suffisamment déterminé pour que justement on puisse avoir cet espace d'imagination qui est lié à cette chose réelle. Puisqu'en fait, ce qui est intéressant avec cette notion de vagueur des choses, c'est qu'on est lié réellement aux choses. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'imaginaire qui nous fait imaginer des choses, c'est qu'on s'appuie sur des choses réelles, hein, c'est pour ça que Peirce est un pragmatiste philosophique, on s'appuie vraiment sur les choses, sur le réel ici concret, pour développer donc il y a un départ à partir de la réalité du monde, des choses qui sont devant nous, perceptuellement, pour en quelque sorte évoquer cette indétermination. Donc, bon, j'avais un peu développé ces éléments-là, mais j'en profite puisque là, je n'ai pas trop développé ça. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, puisqu'en fait, cette notion de vagueur qui fonctionne assez bien avec l'idée de l'imagination pose un autre problème qui s'est posé d'ailleurs à Peirce, puisque si les choses sont suffisamment déterminées, indéterminées, où est-ce que ça s'arrête? Enfin, c'était tout son problème. Qui n'est pas qu'un problème d'ailleurs philosophique, c'est en effet où ça finit, puisque si forcément on n'arrive jamais à cerner les choses telles qu'elles sont, puisqu'elles sont suffisamment indéterminées, mais suffisamment déterminées, où est-ce que ça s'arrête? Comment ça finit? Comment est-ce qu'on est dans la capacité que nous avons de cerner le problème, la question, la couleur, la forme, et donc comment finir la chose? Et donc il y avait ce processus d'interprétation du réel qui est que justement il faut à un moment donné exécuter la chose. Et je crois que sans doute la question se résout d'ailleurs assez bien en art, c'est que à partir du moment où on exécute l'œuvre, on est dans le finir, on l'a fini. C'est-à-dire que là, on a vu la pièce, on a vu l'exposition, on l'a exécutée, donc elle se finit d'une certaine manière. En un point, en un temps T, en un moment géographique, elle est finie, exécutée. Et je pense que chaque exécution, évidemment, peut recommencer, peut se réitérer, recommencera, c'est-à-dire qu'on n'en finit jamais, mais au moins celle-là, elle est terminée. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'à un moment donné, le processus s'arrête et que malgré cette vagueur des choses, l'exécution elle-même fait que le processus s'arrête et donc en fait, il est en nous. C'est une sorte de projection que nous avons, mais qui est aussi dans l'objet qui nous fait face, qui nous projette en quelque sorte des images mentales qu'on essaie d'appréhender, de reprendre. Et je pense que peut-être, bon, c'est une solution, hein, comme ça à laquelle je pensais, qu'il y avait sans doute par l'exécution, on terminait pour un moment cette question du processus de l'indéterminé, du terminé, du fini, de l'infini, du défini. Enfin, parce que je cite quelques exemples assez frappants. Tu disais qu'il y avait plusieurs méthodes, si on peut le dire, de la part des artistes pour échapper, bon, ça c'est une chose assez. Alors je cite justement Proust qui avait tous ces textes, qui rajoutait ces collages. Beckett a écrit sur Proust, hein, il avait fait un petit essai sur Proust dans les années 30. Donc c'est peut-être pas pour rien qu'il s'est intéressé à Proust qui avait traduit, qui n'en finissait pas d'écrire la recherche du temps perdu, la recherche d'ailleurs, on cherche mais quoi, on ne sait jamais, le temps justement qui lui s'enfuit, puisque le dernier mot de la recherche est le temps, enfin, il dit tous ces personnages viennent en place dans le temps, ça finit comme ça. Donc il y a cette chose justement de la capacité qu'ont ces artistes de clore ou de finir, et en même temps il y a ceux qui en effet ont brûlé leurs œuvres. Kafka voulait brûler ses œuvres, donc heureusement que ça a été sauvé. Rimbaud s'est arrêté du jour au lendemain, il n'a plus écrit. Donc il y a des tas de paramètres, des méthodes. Je cite cet exemple très connu, hein, que je trouve très amusant, c'est que Turner, le peintre Turner, donc lors des expositions, il venait le jour du vernissage ou le lendemain peindre le tableau qui était accroché, parce que pour lui c'était pas fini, donc même il continuait à repeindre tout du long. Donc il y a des tas de formulations, des tas de méthodes, mais je pense que cette question évidemment de finir quelque chose, dans le faire, il faut bien exécuter en tant qu'artiste la chose pour que justement au moins se pose cette question, comment finir, puisque Beckett écrit un texte pour se poser cette question. Et en même temps, nous, en exécutant la chose, même mentalement, pour un petit bout de temps, pour un espace de visionnement de l'exposition, on est dans ce faire, qui n'est pas vraiment de finir quelque chose. Alors ça rejoint ce que tu disais sur l'œuvre, finalement, qui continue à vivre, par-delà la mort de l'individu, du créateur. Hein, c'est, le temps de l'œuvre n'est pas le temps de la vie, évidemment, de l'artiste qui l'a produite. Et donc, en fait, on ne va pas s'en servir là-dedans, mais je crois qu'en fait, là aussi, ça rejoint la question des interprétations des œuvres. Je crois que ce n'est pas infini. Moi, je crois qu'en fait, il y a il y a deux méthodes, enfin, il y a deux camps. Hein. Il y a ceux qui pensent que c'est à l'infini, qu'on interprète à l'infini les choses. Et moi, je pense qu'il y a des limites dans la finition des œuvres. C'est-à-dire, à un moment donné, elles se finissent. Bon, mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Voilà, bon, je dis quelques mots comme ça. Alors, soit tu rebondis, soit Franck parle et après on revient, je ne sais pas, je ne sais pas comment tu veux faire, ou les gens après, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu, Alexandra, là-dessus. Ou peut-être Franck peut intervenir et puis.
C'est sûr que ça se veut beaucoup de choses, mais c'est, effectivement, c'est intéressant cette idée que je veux aussi laisser Franck parler. Mais. Cette idée que, effectivement, j'ai dit tantôt, c'est ma dernière pièce. Et, effectivement, cette pièce, pour moi, elle est finie. J'ai fait cette pièce, elle est là, elle est finie. Mais, et quelque part, je vais passer à autre chose, et dans la durée, peut-être que Beckett et Debussy vont ressurgir. Peut-être non, mais peut-être oui.
Ah, j'en profite parce que je parle à maman de ça dans mon texte. Quelle différence ferais-tu être quelque chose qui est fini mais qui n'est pas terminé ?
Une pièce qui est finie ?
Et qui n'est pas terminée, parce que tu dis ça peut ressurgir. Donc en fait, c'est fini, mais c'est
terminé.
Ça, c'est le problème de beaucoup d'artistes.
C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est plus que Beckett et Debussy pourraient réapparaître dans mes préoccupations pour une nouvelle pièce. Mais je ne vois pas tellement ce que je pourrais faire d'autre avec celle-ci. Effectivement, à partir du moment où la pièce est installée, et c'est vraiment ça finit à partir du moment où les gens posent leurs yeux sur la pièce. C'est ce qui scelle la pièce. C'est-à-dire la pièce, elle est installée, les gens rentrent, la regardent et ça existe à partir de ce moment précis. Et à partir de ce moment-là, la pièce m'échappe, en fait. Et moi, je rejoins le public. Et effectivement, même si j'ai fait cette pièce, avec le temps, je deviens le public de mon propre travail. Je pense que c'est vrai pour tous les... et peut-être c'est ça qui... entre autres, parfois... gênait Beckett quand, par rapport à la présentation de ses pièces, où il était extrêmement critique et sensible et parfois un peu difficile, c'est qu'il était le public de son œuvre, et que quand il assistait à de nouvelles mises en scène, il, par rapport à l'énoncé d'origine, quand le travail est fait, il nous échappe. Et quand on devient le public de son propre travail, on n'exerce plus aucun contrôle, en fait. Et Beckett était travaillé par cette idée de contrôler jusqu'à un certain point, un peu beaucoup parfois, la mise en scène d'œuvres qui lui échappaient, mais...
Surtout les pièces de théâtre, enfin, les mises en scène.
Les mises en scène, surtout forcément les pièces pour... mais cette question, c'est parce que cette question de finir, c'est vaste, et ça... Tu le dis très bien dans ton texte. Tu finis ton texte, Jacinto, en disant « Comment finirons-nous ?» Et c'est finalement poser la question dans l'optique existentielle de cette pièce, c'est-à-dire ça c'est nous comme personne. Comment
oui,
finirons-nous
et nous, comment finirons-nous ?
Et c'est intéressant parce que bon, ça c'est la question plus personnelle, physique, de mourir et de disparaître. Et comment la fin de vie, quelle sera notre fin de vie? Et on sait que pour beaucoup de musiciens, d'artistes, ça ne se termine pas nécessairement très bien. Mais il y a deux aspects, et ça, ce serait une autre question, mais il y a deux aspects qui n'ont pas été, pour Debussy, entre autres, c'était un peu compliqué. Mais il y a deux questions qui sont intéressantes par rapport à l'idée de finir, c'est... entre autres la question de l'improvisation, à savoir que cette pièce ici, l'installation, c'est composée, ça, c'est de la composition. J'ai travaillé sur à la table et puis j'ai vraiment composé la chose, maintenant on la met en espace. Mais l'improvisation, l'idée d'improvisation, parce qu'apparemment Debussy était un très bon improvisateur. Beckett, par contre, était vraiment un compositeur rigoureux au sens où... Beckett ne semblait pas aimer le jazz. Et chez Beckett, il n'y a aucune référence au jazz, jamais. C'est vraiment de la... C'est, disons, Haydn, Beethoven, Schubert. Il aimait aussi une certaine musique contemporaine, mais composée. Et en fait, l'improvisation, et là je fais référence à Debussy, qui apparemment, pour les gens qui l'ont entendu, improvisé, il y a des témoignages où on dit, en fait, si vous aviez entendu... Debussy improvisait, c'était même mieux que ce qu'il composait. Il y a des moments de beauté extraordinaire qui émergeaient spontanément et qui sont perdus à tout jamais. Mais l'idée de l'improvisation, c'est qu'effectivement, on commence et on ne sait pas où ça va finir. On ne sait pas quand ça va finir. Et chose-là, c'est la contrepartie de la composition, à savoir que c'est l'illusion qu'on entre dans une sorte de relation au temps, où quand on improvise, ça n'est plus la même relation que la composition, où on est dans le moment et des moments superposés qui finissent par donner une œuvre composée, et que quelque part, à la limite, quand on improvise, on pourrait jouer pour l'éternité. Il y a une sorte de... peut-être qu'il y aura... Ça s'arrête, il faut que ça s'arrête à un moment donné, mais on sait très bien que l'idée de... C'est intéressant, parce qu'il y a tellement de choses qui me traversent la tête par rapport à ça. L'idée que, par exemple, que le grand ami de Debussy, Satie, en 1893, compose Vexation, où il rejoue 840 fois le même motif, ça dure 20 heures. C'est un truc où on a l'impression que ça finit jamais. Et quelque part, on est dans l'éternité avec Vexation. Et à ce moment-là, Satie a posé sur papier, c'est une toute petite partition, il a inventé un rapport au temps qui échappait à Debussy complètement. Il a eu une intuition extraordinaire. Et dans le contexte, disons, de ces performances imaginaires dont on ne sait pas si elles ont eu lieu, ça serait une autre histoire de la performance qu'il faudrait raconter, parce que l'histoire de la performance qu'on connaît et les bouquins qui sont là-dessus, c'est les œuvres qui ont été jouer, exécuter devant les gens,
oui,
devant
documenté,
le public. C'est ici, comme la marche, on ne sait pas si les gens vont le faire, c'est anonyme, on peut marcher de la tombe dans laquelle de Debussy à Beckett ou de Beckett à Debussy. Et personne ne le saura jamais, mais la partition de Satie disait « se jouer à soi-même », 840 fois ce motif. Ça voulait dire qu'on peut imaginer que peut-être Satie, dans son petit appartement à Arcueil, peut-être a joué pour lui-même 840 fois pendant 20 heures, personne ne le sait. Voilà une performance qui n'est pas enregistrée dans l'histoire, mais bien avant Cage en 1963, qui lui a recours à une dizaine de pianistes. Peut-être que Satie, et ce Satie-là, on a cette photo extraordinaire en 1911, prise chez Debussy. La photo est prise par Stravinsky devant le foyer, Satie et Debussy. Debussy qui regarde Satie, Satie qui regarde le photographe, qui est, Debussy, qui est Stravinsky, qui lui, qu'on devine dans le miroir avec une sorte de voile par-dessus la tête, qui est en train de prendre la photo. Et ce vis-à-vis, c'est très intéressant par rapport à la tension qu'il y avait entre les deux, Debussy et Satie, et le rapport au temps dans leur musique. Et je pense que quand Debussy met orchestre les deux ou trois gymnopédies de Satie, qu'il reconnaît qu'il se passe quelque chose dans la musique de Satie, une relation au temps qui ne finit pas, qui est dans une sorte de durée, c'est une musique qui flotte comme suspendue et qui est comme dans l'éternité, et que c'est une sorte d'aspiration. Et entre les deux, entre Debussy et Satie, on a un Bouddha sur le... Mais il y a une autre histoire que je voudrais raconter en rapport avec Debussy et finir. Vous connaissez peut-être cette histoire de Rosemary Brown, qui était un médium anglais, britannique, une femme qui n'avait pas une culture musicale particulière, mais qui prétendait qu'elle recevait la visite de compositeurs de l'au-delà. Tu connais cette histoire, Franck? Et donc, je crois que le premier qui l'a visité, c'était Franz Liszt, et après, elle a eu la visite d'un certain nombre de compositeurs. Elle recevait de ces compositeurs des pièces de musique qu'elle notait. Et elle-même, on a tout un répertoire d'œuvres de Debussy, de Liszt, de Chopin, d'un certain nombre de compositeurs qui ont été, des œuvres qui ont été transmises à Rosemary Brown. On lui guidait la main, puis parce qu'elle n'avait pas apparemment la technique, le savoir-faire pour noter ça, parfois une musique d'une assez grande complexité, ni d'ailleurs, pour certaines des pièces, la technique pour les jouer. Mais alors, on se retrouve avec un répertoire à la manière de Scriabine, de Chopin, de Liszt, un ensemble de pièces, dont Debussy. Et j'ai... c'est sorti, je crois, son premier disque est sorti en 1970. Ça avait à l'époque créé une certaine sensation et on lui avait fait passer des tests. On l'avait mis à l'épreuve et on a tenté de toutes les façons possibles de prouver que cette femme était une supercherie. Et finalement, on n'est jamais arrivé. C'était simplement une femme qui n'avait pas une très grande technique, qui arrivait à jouer certaines pièces de façon très rudimentaire. Et on n'est pas arrivé apparemment à expliquer le phénomène. Elle est morte en 2003 ou dans ce coin-là, 2002. Alors quand j'ai entendu la musique qu'apparemment Debussy lui aurait transmise, c'est pas de la très bonne musique. C'est une sorte de pastiche, mais c'est pas intéressant. Et je me suis dit, par rapport à finir, est-ce que vraiment ça vaut la peine de revenir de l'au-delà, dans ce monde-ci, pour transmettre une musique pareille?
Parce il avait quel âge quand il l'a transmis? Il avait 180 ans.
Ah bah, ouais.
Il ne faut pas lui demander plus.
je veux dire, il est peut-être devenu séné, peut-être à, ce, à, ce, à cet âge avancé. Mais là, tu poses la question, Franck, à ce moment-là, on continuerait de vieillir dans, le, dans l'au-delà. Je ne connais pas grand-chose en ce qui concerne l'au-delà. J'ai pas, mais c'était quand même, c'est l'idée que, bon, si, on est, si Debussy est dans l'au-delà, il continue de créer de la musique, ben alors c'est, rien n'est fini. Et on est dans une sorte d'éternité où le, ça se continue, sauf que cette, je pense qu'on peut entendre une ou deux pièces sur YouTube. C'est pas intéressant. C'est ce qu'il y a de moins novateur, le Debussy de la fin, tourmenté, malade, qui compose la, sa toute dernière œuvre, la sonate pour violon et piano. C'est une œuvre radicale et. D'une intensité, d'une audace par, par rapport à ces petites pièces qui... Bon, alors, cette idée, alors oui, Debussy, par rapport à cet imaginaire, si on veut, ce fantasme, vit dans l'au-delà et parfois il traverse dans les... Et il vient comme ça donner quelques pièces. Et, mais ça contredirait le fait que... par rapport à ce dont on parle, on commence à un moment donné et on continue. Et on arrive au bout. Et que ça, c'est dans la durée. Dans le cas de Debussy, c'est autour de 80, les premières compositions. Je pense que son trio date de 80. Et l'œuvre emblématique qui a même changé l'histoire de la musique, le prélude à l'après-midi d'un faune, c'est composé entre 92 et 94, c'est créé en 94, c'est une chose incroyable. Ce fameux prélude à l'après-midi d'un faune a été interprété au 40 rue Rochechouart, juste à côté ici, on sort de... J'en revenais pas quand j'ai... C'est la chose un peu magique en rapport avec cette ville aussi, que c'est cette ville... Commarché, Beckett et Debussy en tous sens. Donc on est dans la ville où ces deux individus ont vécu et qu'ils ont sillonné toute leur vie. Et donc à quelques pas d'ici, cette partition extraordinaire où justement il y a tout un nouveau rapport au temps qui est énoncé. Elle est entendue pour la première fois et la petite musique que Debussy amenait de l'au-delà, c'était rien du tout par rapport à une partition extraordinaire comme ça. Et ensuite, ben, il y a toutes les autres œuvres, les nocturnes, et puis le Péléas, et puis la mer, et puis évidemment Jeu un peu plus tard. Et puis à chaque fois, il y a une sorte de... Ça, c'est intéressant. Debussy parle de ça, et dans certains textes, ça hantise de se répéter. Et de ne plus être capable de se renouveler. Il en parle, c'est comme un... c'est pourquoi Debussy est si insatisfait, et puis qu'il abandonne des projets, et puis finalement... donc, peut-être que aussi dans la durée, il y a quand même un certain développement qui se fait dans le travail, et que finir, c'est aussi ça, c'est énoncer les choses à un certain niveau... Et au fur et à mesure que l'œuvre évolue dans le temps, ça se complexifie. Peut-être que ça se dépouille aussi. Ça dépend chez Beckett, dans Soubresaut, c'est très épuré. C'est vraiment aller à l'essentiel avec des mots, presque. Et la ponctuation et tout est ramené à très peu de... Et donc, dans cette... finir implique commencer, et commencer implique un travail qui se fait dans la durée et qui fait qu'on ne peut pas revenir à la toute fin avec des pièces qui ressemblent au début et qui contrediraient... l'évolution d'une pensée ou de... Je pense que c'est la même chose chez Beckett. Il y a une épuration, il y a une concentration, il y a une densité dans le dernier texte qui est très court. On pourrait dire, si on veut connaître Beckett, on ne peut lire que ça. On lit soubresaut, c'est tout, on n'a plus besoin. On peut, mais on le lit 100 fois. On le lit de temps en temps, on le lit, mais tout est là, là comment ça sonne, le rythme, le... Oui, c'est Franck, tu dois prendre la relève.
Non, c'est intéressant ce caractère déceptif que tu trouves dans l'au-delà, parce que effectivement, les gens pensent habituellement que si l'au-delà existe, les gens qui sont dans l'au-delà ont un savoir supérieur, ont des compétences un peu plus développées, ils sont en meilleure forme, disons, ils ne sont pas soumis aux aléas physiques. Et là, dans ta description, non, au contraire, c'est comme ici, mais moins bien. C'est-à-dire que on compose moins bien, on est moins radical. C'est...
Mais, évidemment, moi, je ne crois pas qu'on puisse revenir. Donc, j'aime cette histoire, j'aime Rosemary Brown, j'aime le personnage, j'aime cette histoire, mais évidemment, c'est aussi une sorte d'appel dans l'au-delà. C'est comme écrire. J'ai fait une pièce là-dessus. À un moment donné, j'ai fait toute une pièce avec les adresses des musiciens décédés. C'était que leurs adresses sur des disques. Parce qu'une adresse, il se passe toujours quelque chose à une adresse. Et surtout si on est chez un musicien. Et au fond, c'était comme... Mais tous les musiciens décédés. Mmh. Et donc, c'est comme écrire dans l'au-delà, envoyer une lettre à quelqu'un dans l'au-delà et attendre... attendre que quelque chose se passe.
D'ailleurs, c'est la remarque que j'avais faite à Raymond, parce que quand je suis venu voir l'exposition, j'étais pas venu vers Nissa, j'étais pas là. Et on était deux dans la salle, je t'ai dit, tiens, c'est spectral, là. Parce que c'est vrai que là, on ne voit pas, mais quand on arrive et qu'on voit ces mots de Beckett et qu'on voit quelque chose qui se dégage, en effet, alors pas forcément de l'au-delà, mais en tout cas de spectral, qui est assez frappant, qu'on ne voit pas du tout quand il y a une description comme ça, verbale, sur un texte. Alors, quand on est en présence de ces étranges personnages, puis en fait, finalement, les instruments sont un peu comme des personnes. Hein. C'est ça qui est frappant.
Oui, absolument.
Ils sont là comme des personnes, en fait, devant
nous. Un côté spectral, anthropomorphique.
Ouais. Hein. Ouais, c'est assez frappant. Mais bon, peut-être qu'on va laisser la parole à Franck.
Non, mais c'est très bien. Non, mais je me demandais, en fait, si on ne pourrait pas, pour décrire des pièces comme les trois sonates de Debussy, utiliser un autre vocabulaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être temporairement, est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser de termes comme imagination, fiction, pièce conceptuelle, ou inventer. Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'on perd peut-être quelque chose... quand on dit évidemment ça n'est pas de la musique, moi je sais pas si c'est pas de la musique, parce que à partir de quand en fait on a un objet qu'on peut appeler musique. Alors là tu vois les sonates, il y a juste les instruments, il n'y a pas plus. Alors on va dire ah bah s'il y a que les instruments c'est pas de la musique, mais par exemple la dernière pièce que Bach a composée, alors là il y a les portées musicales mais il n'y a pas les instruments, on sait pas pour quel instrument ça a été composé. Alors, est-ce qu'on va dire que ce n'est pas de la musique parce qu'il n'y a pas les instruments ? Et alors, tu vois, je me dis, je ne suis pas sûr que ça soit si simple. Est-ce que, par exemple, on a vraiment besoin d'écouter, d'entendre de la musique pour dire que la musique existe ? Est-ce qu'elle ne peut pas exister sans qu'on l'entende ? Alors, parce qu'il me semble quand même qu'une œuvre, quelle qu'elle soit plastique, sonore ou discursive, une œuvre, ça a plusieurs dimensions. Une œuvre sonore, elle a une dimension visuelle aussi. Tu as beaucoup travaillé sur les pochettes de disques, mais on peut travailler aussi sur le caractère de l'exécution, par exemple, du concert. Et une œuvre, elle a aussi une œuvre plastique, elle a aussi une dimension discursive. La façon dont on en parle, par exemple. Et moi, je suis pas sûr que en utilisant un vocabulaire qui dirait ah bah oui c'est une œuvre conceptuelle ou ça fait appel à l'imagination, ça soit pas écrasant en fait. Ça n'écrase pas cette proposition, parce que une proposition comme celle-ci, ou comme beaucoup d'autres que tu as faites, pour moi, c'est beaucoup plus montrer des dimensions de l'œuvre qui ne sont pas les dimensions principalement mises en avant, par exemple la dimension visuelle des objets sonores, que de dire, ça me paraît plus intéressant de la décrire comme ça, que de dire, bah oui, là on fait appel à l'imagination parce qu'on n'entend pas la musique. Or, pour produire une œuvre musicale, par exemple, il faut écrire des partitions, il faut produire des enregistrements, et on fabrique des boîtes, on met le CD, on met le 33 tours, etc. On a des salles de concert pour l'écouter, on a des machines pour les qu'on appelle des stéréos, enfin, ou des chaînes, hi-fi. Et tout ça, ça fait partie de la chose. Alors, il se trouve que... Enfin, je suis sensible en ce moment à cet aspect-là, parce que je travaille sur un projet avec des camarades qui essaie de réfléchir sur les différentes dimensions des œuvres, les différents régimes. Et on était parti d'un truc très, très bébête, hein, qui était de dire qu'une œuvre, en fait, on y avait accès de plein de façons différentes. Alors, on va prendre le truc le plus simple à s'imaginer, une sculpture en marbre. Hein, comme ça, c'est bien lourd, on n'est pas dans l'art conceptuel du tout. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette sculpture en marbre? Eh bien, si elle est exposée dans un musée, on peut se rendre dans le musée, au troisième étage, au fond de la salle, dans les bons horaires d'ouverture, entre 14h et 18h, et là, on peut la voir et tourner autour. Et là, on a ce qu'on appelle l'expérience physique, hein, l'expérience esthétique de l'œuvre, en vrai. Mais il y a d'autres façons aussi d'y avoir accès. Si on n'a pas la chance d'habiter dans la bonne ville ou dans le bon pays, ou si on n'arrive jamais à être à l'endroit entre 14h et 18h, et si en plus l'exposition dure 3 semaines et que c'est allé trop vite, que bon, évidemment on l'a raté, ben, si elle est reproduite dans des catalogues, on y a accès par l'image. Et si l'œuvre n'est pas reproduite dans des catalogues, on peut y avoir aussi accès d'autres façons. Par exemple, quelqu'un a vu l'expo et nous en parle. « Ah, j'ai vu une sculpture formidable, elle est en marbre, elle est au fond de la salle, elle se présente comme ça. » Et alors, habituellement, les gens hiérarchisent ces accès aux œuvres. C'est-à-dire qu'on considère que vraiment le mieux du mieux, c'est d'avoir la présence esthétique de l'œuvre dans un face-à-face. Qu'ensuite, un degré un peu moins intéressant, c'est d'en voir des images. Et alors, bon, alors, le plus bas degré de l'accès à l'œuvre, c'est si tu m'en parles, par exemple. Alors là, c'est limite infâme. Mais en fait, si on réfléchit aux quantités d'œuvres qu'on connaît, on se rend compte que quantitativement, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'en connais beaucoup plus par oui-dire que ce que j'en ai vu physiquement, même si pour des raisons professionnelles, j'en vois beaucoup physiquement, malgré tout, j'en vois encore plus dans des livres et j'en vois encore plus, enfin j'en entends encore plus par oui-dire. Et si on arrête de hiérarchiser alors ces accès, qu'on se dit simplement qu'une œuvre, elle se donne de différentes façons, elle se donne aussi bien sur un mode physicaliste, dans le face-à-face, elle se donne aussi bien dans des reproductions et elle se donne aussi bien par la parole, c'est-à-dire qu'elle existe dans différents régimes, ça change un peu le vocabulaire parce que tu réfléchis sur ce que c'est la durée de vie d'une œuvre. Mais la durée. Alors, si on reprend le modèle de l'exécution, que c'est le spectateur qui l'active quand il la voit. Alors, si l'œuvre, on considère qu'elle n'existe que quand on va la voir entre 14h et 18h pendant les 3 semaines d'expo, bah, la pauvre, elle a une durée de vie quand même. Elle n'est pas aidée, quoi. Si on considère qu'elle continue d'exister, même à un degré plus faible, hein, à une intensité plus faible, dans les reproductions, sa durée de vie, elle est un peu plus grande. Maintenant, si on considère que dans une conversation, même si on en parle de façon mal informée, en 3 phrases, un peu comme ça, sa durée de vie, elle est vachement longue parce qu'il suffit que quelqu'un en parle pour qu'elle se mette même très faiblement à exister. Et moi, il me semble que dans beaucoup de ces propositions, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est d'autres accès aux œuvres, c'est-à-dire que l'œuvre, elle peut se donner par son titre. Par exemple, il y a énormément d'œuvres qu'on a perdues ou qui ont été détruites. La majorité des sculptures de l'Antiquité grecque, on ne sait pas à quoi elles ressemblent. En revanche, il y a des textes qui parlent des sculptures de Pausanias. Bon, même chez les artistes contemporains, il y a des artistes dont les œuvres ont brûlé, dont on n'a plus que des reproductions, etc. Ou il y a eu la guerre, etc. Bon, on peut dire que les œuvres ont disparu, mais on peut dire aussi qu'il suffit qu'on en ait une description par quelqu'un, ou qu'on en ait une photo, etc. Ben, elles continuent à exister un petit peu. Et je ne crois pas que ça soit intéressant de dire que ça devient une œuvre conceptuelle. Je pense que c'est plus intéressant de voir que les accès à ces œuvres se sont peut-être réduits. On n'a plus qu'un aspect visuel, on n'a plus qu'un accès narratif. Mais ce sont quand même des accès qui appartiennent à l'œuvre. Voilà, enfin, c'est un peu comme ça, moi, que je rentrais dans ces propositions. C'est une façon un peu de se débarrasser. C'est pas parce que j'aime pas l'imagination ni la fiction, mais je trouve que ça, c'est pas très secourable en fait pour ces.
Non, mais ce que tu dis, finalement, c'est très juste, et moi je suis très content d'entendre ça parce que effectivement, moi j'en parle avec mes mots, et tu me dis au fond, peut-être fais attention, peut-être que tu n'en parles pas.
Non, c'est pas normatif, c'est pas pour dire que c'est pas bien.
Et finalement, je serais ravi qu'effectivement on trouve tout un nouveau langage et vocabulaire pour parler de ce travail. Évidemment, le travail qui est là, comme tu le mentionnes, il y a plein d'artistes qui disparaissent de l'histoire, il y a plein d'œuvres qui sont complètement englouties. Et pas seulement la cathédrale engloutie, on va me permettre cette allusion, mais il y a plein d'œuvres qui disparaissent et finalement, c'est la vraie fin de la chose, c'est-à-dire que, d'une part, on fait un travail, mais quand même, on ne sait pas dans la durée ce qui va advenir de tout ça. Et il y a Debussy et Beckett tiennent bien la route, mais il y a beaucoup d'écrivains et de musiciens qui sont disparus, d'œuvres dont on n'entendra plus jamais parler. Et donc, ça, par rapport à la fin, c'est aussi une chose qui nous échappe complètement. C'est-à-dire, on fait un travail, puis peut-être ça va disparaître, et on ne sait pas. Mais effectivement, c'est vrai que moi, j'en parle avec mes mots, et tu as raison de pointer ça. C'est-à-dire que c'est même parfois des mots un peu clichés, ou des mots qui sont tellement utilisés comme l'imaginaire, par exemple, qui revient, ou le mot conceptuel qui est partout. Et j'espère que, je crois que la pièce, indépendamment du discours que je tiens sur elle et des mots que j'utilise, elle existe pour, les gens ont un rapport à cette pièce qui m'échappe et que je ne peux pas verbaliser dans mes mots. En fait, au fond, je parle de la pièce comme je parle de mon rapport à la pièce, en fait. Et c'est vrai que ça serait intéressant qu'un nouveau vocabulaire complètement différent émerge pour qualifier la relation qu'on a à cette pièce et que quelque part, ça serait une forme de récréation, recréation.
Moi, je dirais que c'est peut-être moins finalement un nouveau vocabulaire qu'un autre point de vue, parce que toi, tu as le point de vue de l'artiste, qui est à peu près logique, et on pouvait s'en douter, mais peut-être que du point de vue de la pièce elle-même, elle a un point de vue différent de toi et qu'elle ne dirait pas la même chose.
On n'en a pas parlé.
Oui. mais tu vois, par exemple, pour reprendre cette idée qu'une œuvre a plusieurs dimensions, qu'une œuvre sonore peut avoir une dimension visuelle, discursive, etc. Si on prend, alors là, la tarte à la crème de l'art, qui serait la Joconde. La Joconde, évidemment, c'est pas que le petit bout de toile avec de l'huile dessus qui est caché dans les caves du Louvre, qui n'en exhibe qu'une copie parce que c'est trop fragile, etc. C'est évidemment aussi tout ce que ça représente, les cartes postales, les posters, la façon dont on parle à l'école, les œuvres qu'elle a produites, le LHO occulte du champ, etc., etc., les copies, les histoires de faussaires, de vols. Et si on se demandait qu'est-ce qui serait pire pour la Joconde, que ce soit le petit bout de toile original qui disparaisse, ou si c'était tout le reste, c'est-à-dire qu'en fait, que ça redevienne un objet totalement inconnu, qui ne soit pas écrit, qui n'est pas constitué l'histoire de l'art, ça peut se discuter, mais ce n'est pas sûr que ce soit le petit bout de toile qui gagne pour le patrimoine, en termes de patrimoine de l'humanité et en termes d'action de l'œuvre. Parce que je dirais presque aujourd'hui, on n'a plus besoin du petit bout de toile. C'est rassurant de l'avoir, mais
C'est certain que les œuvres vivent de toutes les façons que tu décrivais, c'est-à-dire qu'elles vivent dans la reproduction, par exemple. Et Dieu sait, à l'heure actuelle, où il y a un intérêt si fort pour les archives, entre autres les archives, c'est la documentation, entre autres, pas seulement des documents inédits, mais les œuvres elles-mêmes, la documentation des œuvres. Il y a plein d'œuvres qu'on ne verra jamais en vrai dans notre vie, mais qu'on voit en reproduction et qui nous interpellent.
Et qui ont une action même.
Et ce que tu racontais, le récit des œuvres, c'est aussi ça peut être très fort. Et peut-être qu'à la limite, on peut même imaginer que le récit d'une œuvre pourrait être, pour une personne, plus fort que l'expérience de l'œuvre. Ça reste ouvert, ce potentiel.
Par exemple, tu prends l'histoire de Chris Burden et de son fusil. Bon, personne ne va dire que ça n'a pas existé. Enfin, Burden, tu lui dis que ça n'a pas existé, à mon avis, il ne sera pas content. Mais ce qui a produit l'effet de cette performance, c'est le récit, parce qu'il y a eu 3 chats qui y a assisté. C'est la production d'une photo. Donc en fait, qu'est-ce qui a permis l'action de cette performance? C'est une photo et un récit qui circule. Si c'était resté enfermé entre 4 murs, la performance n'aurait eu aucune action en fait sur l'histoire de la performance.
La photo, le récit, mais la spécificité de l'action,
oui,
évidemment.
Bien sûr.
Mettre sa vie en danger.
Tout à fait.
Pour
mais s'il avait mis en danger tout seul, par exemple, et qu'il avait raconté à personne, ou à son voisin, disons, il aurait mis tout autant sa vie en danger, mais bon, l'impact aurait été plus limité. Ça aurait eu un impact sur son voisin, sur la copropriété, mais pas beaucoup
non,
plus,
mais,
quoi.
Tu sais, prenons cette pièce, ouais, puisqu'on est ici, devant une pièce. Il y a l'expérience de la voir in situ. Tu m'as envoyé les photos aujourd'hui, Alexandra, certaines photos. Les photos ne rendent pas l'expérience quand même. Mais c'est autre chose. Ce n'est pas inintéressant du tout. Mais cette circulation dans l'espace n'est pas remplacée par là ou même les photos. Et effectivement, tu m'as envoyé, je pense, une quarantaine de photos. C'est très difficile de documenter une pièce comme ça. Quasi impossible. Il faut en documenter des fragments, et puis finalement il faut avoir un ensemble de photos pour, mais rien ne remplace la déambulation physique dans mais la photo n'est pas rien.
Non, mais là,
et
par exemple,
si quelqu'un va te rencontrer, voilà, sur la rue et te raconter la pièce et dire j'ai vu telle pièce, on a exposé l'orchestre
qu'est-ce qui est plus intéressant pour cette pièce, disons, de dire il y a eu une installation qui permettrait d'imaginer ce qu'auraient été les 3 dernières sonates où Raymond a essayé de reconstituer disons les 3 dernières sonates de Debussy. Mais il les a vraiment reconstitués, c'est-à-dire que c'est pas imaginé, c'est avec les éléments qui y restent, eh bien, on a reconstruit la pièce. Alors, la reconstruction est disons, pas achevée, elle est partielle, mais c'est une reconstruction, quand même.
Moi, je te suis pas, par exemple. C'est-à-dire, par rapport à cette... Parce que, tu sais, chez Debussy, prenons, par exemple, la chute de la maison Huchère, ouais, d'après Poe. À la toute fin de sa vie, Debussy était quand même très avancé, mais encore une fois, c'est une autre partition qu'il a abandonnée sans la terminer, mais il a terminé le livret au complet, probablement la partie de piano, et maintenant on a complété pour lui. Donc là, on est dans cette dynamique dont tu parles, d'une œuvre qui, quelque part, on a un certain nombre de fragments, et à partir de ça, on peut presque arriver à compléter l'œuvre, quelque part à l'imaginer, mais parce que Debussy nous donne suffisamment de matière Mais cette œuvre-là, Franck, je ne sais pas.
Mais il n'y a pas besoin de savoir.
C'est ça, il n'y a pas. Je ne vois pas qui. Quelqu'un me dirait, bon, moi, je vais les composer les trois dernières sonates, je dirais, parfait. Mais en fait, moi, ça ne m'intéresse pas.
Non, mais il ne s'agit pas d'imaginer, justement. Il ne s'agit pas d'imaginer comment ça pourrait sonner. C'est de dire que, la sixième sonate, la forme qu'elle a aujourd'hui, c'est simplement ça.
Oui.
De la même façon que quand tu as fait ce travail sur les pochettes de disques, il ne s'agit pas, en regardant une pochette de disques, d'essayer d'imaginer ce qu'il peut y avoir comme musique à l'intérieur, c'est que c'est l'élément visuel de cette musique. Et ça dit beaucoup de choses de la dimension visuelle. Pas plus, ça ne cherche pas à reconstituer le sonore. Ça dit quelque chose du visuel.
Mais je sais qu'il y a des gens qui ont tenté de reconstituer.
Ouais, mais c'est autre chose.
À partir de propositions imaginaires comme ça. Mais c'est certain que la dimension visuelle de la musique, on pense à Mauricio Kagel,
ouais,
tout son théâtre musical, il était peut-être plus frappé lors d'un concert du comportement du musicien devant le public et de la façon dont chaque musicien qui joue d'un instrument, que ce soit le haut. Finalement, ça correspond à des tempéraments, les gens commencent, ils prennent une sorte de forme physique qui correspond à l'instrument. Si on est à la trompette, si on est un pianiste, si on joue de la contrebasse, et finalement, ça finit par se transposer dans la gestuelle au quotidien de la personne qui, tout d'un coup, on est devant un contrebassiste, on est devant... Et je crois que même le visuel de la musique, par exemple chez Kagel, l'intéressait peut-être plus à la limite que certaines musiques. Et donc ça, effectivement, c'est très important pour moi, le visuel de la musique et le fait que... oui, je suis content que tu pointes ça, le fait que c'est une chose visuelle, comme si mes pochettes, c'est des objets visuels.
Et ça permet de sortir de l'immatériel, tu vois. Ça permet aussi de dire, c'est pas... Enfin, le risque en disant c'est une pièce conceptuelle, c'est de dire on est dans l'immatériel. Or, non, c'est super matériel. Une partition, c'est matériel. Il y a une gestion de l'espace. Il y a... tu vois, c'est du matériel.
Et moi, j'ajouterais un petit bémol, si on peut dire. C'est que si par exemple on voyait exactement la même chose qui est là, mais le titre c'est Ravel, on ne verrait pas la même chose.
Non, ouais. C'est pas un bémol, c'est une dièse.
On ne verrait pas la même chose. Et je crois qu'en effet, tout à l'heure, tu parlais des titres et des discours et tout ce qui est autour des œuvres. Je crois que si simplement tout d'un coup on sait, tout d'un coup, je sais pas, il y a une partie de Debussy, mais tout d'un coup il y a une partie qui nous a trompé un petit peu en faisant un petit jeu et tu dis finalement non, c'est Maurice Ravel, la dernière sonate qu'elle avait composée. Donc du coup, on ne verrait vraiment pas la même chose, c'est-à-dire sans changer la disposition. Du coup, là, on rentre dans un autre régime, en effet, de... pas forcément... Moi, je ne défends pas l'idée non plus que c'est une reconstitution imaginaire, conceptuelle, du tout. Parce que justement, c'est là où est l'astuce, c'est que tu ne l'as pas fait du tout. Tu n'as pas tenté d'inventer quelque chose pour prolonger, finir ce qu'il n'avait pas fait. Tu n'as pas du tout fait, parce que là, ça aurait été une erreur, en un sens.
Non, mais disons, si je reprends ce que tu dis, que... on n'appelait pas ça finir, mais on appelait ça Ravel.
Oui, pardon, oui.
Rien d'autre. Ça s'appelle Ravel. Et qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Non, mais c'est vrai, à ce moment-là, on sera obligé d'essayer de. En tout cas, selon les individus et les intérêts, on sait qu'il y avait un rapport particulier entre Debussy et Ravel. D'amitié et conflictuelle aussi. Et on sait aussi que chez Ravel, ça s'est mal fini, qu'à la fin, Ravel souffrait d'aphasie, tout comme Debussy est mort de son cancer, et qu'il n'arrivait plus à composer, puis il n'arrivait plus à... était dans l'incapacité de finir une pièce. Et donc, on commence à voir on pourrait essayer... Ravel, Beckett... c'est intéressant parce que ça fait travailler. Ravel, Debussy, d'emblée, je peux déjà voir des liens entre eux. Et tout d'un coup, je commencerai à lire cette situation par rapport, mais ça, c'est en tenant compte quand on connaît Debussy, disons on connaît Ravel, et que quelque part on peut essayer de voir comment ça dialogue cette chose-là. Mais nulle part j'ai vu que Beckett jouait Ravel, mais c'est pas impossible. Par contre, Beckett était très ami avec Monique Haas, la pianiste virtuose, qui elle était une grande interprète de Ravel et de Debussy, et qui a enregistré une intégrale Ravel et Debussy. Donc, quand Beckett lui rendait visite, elle jouait, ça c'est une histoire vraie, elle jouait les dernières pièces qu'elle avait jouées en récital. C'est clair qu'il a entendu jouer beaucoup de Ravel. Donc déjà, il y a une sorte de... Mais ça, c'est des liens plutôt d'ordre historique et anecdotique, on peut dire, jusqu'à un certain point. Mais finalement, tout ça, effectivement, si... Bon, et c'est ce que moi j'en dis, mais si ça s'intitulait Ravel, cette pièce, effectivement, on ne la regarderait pas de la même façon, et on serait incapable de la lire de la même façon. Et on est un peu dans ce que tu soulignais, tout d'un coup, on emploie soit un mot nouveau, un langage nouveau pour essayer de parler de la chose. Au lieu d'appeler ça finir ou commencer, on appelle ça Ravel. Et puis, on projette on installe un mot dans la situation qui oblige, amène une lecture, parce que ça pourrait être aussi autre chose que Ravel, ça pourrait être simplement un mot.
Mais ce ne serait pas la même œuvre. Hein. Ça ne serait pas la même œuvre. Ce serait une autre œuvre.
Non, ça ne serait pas la même. Ça serait pas la même œuvre, effectivement.
Ça fonctionnerait très différemment.
Et c'est pas ce que j'ai fait. Et en fait, je suis pas sûr que ça serait efficace de faire ça. Parce que parfois, complexifier, c'est pas pour le mieux, nécessairement.
On va peut-être passer aux questions, parce que sinon on va exploser le temps, justement.
Si je peux commencer, j'aimerais juste revenir à ce que Franck a dit, qui m'a beaucoup intéressé, c'est le récit des œuvres et la composition. Et j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la difficulté que les géographes grecs de la première heure, les cartographes, avaient à représenter la Terre à partir des récits de voyageurs. Ils ne bougeaient pas, ils ne voyageaient pas. Il n'y avait pas de vision satellite, on ne savait même pas si la Terre était ronde, plate, incurvée dans l'autre sens. Et on devait faire une représentation. Et là non plus, on ne savait pas si ça devait être une carte, un poème, parce qu'il y avait des poèmes géographiques aussi. Donc toutes ces indéterminations d'un objet qui n'a pas de finitude, dont on ne savait ni les limites, on l'appelait okoumène, ça veut dire la terre connue, donc une chose inachevée. Et donc ça a donné une succession, une multiplicité d'œuvres à partir de ce besoin de rassembler, finalement, de composer. Et les géographes grecs composaient comme des musiciens. Ils avaient ces idées d'harmonie cosmique, enfin de dissonance, de discordance, et ils rassemblaient ces récits contradictoires de voyageurs en une composition qui avait ces qualités harmoniques. Donc, lorsqu'on parlait un peu de musique non visuelle, musique cosmique, musique harmonique, inscrite dans l'ordre des choses, parce que tout ça, c'est une sorte de mathématiques, de conception de l'univers aussi qui est en jeu. Et par rapport à, je dis très rapidement, par rapport à cette histoire de la mort, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez Anne Coquelin, que j'aime beaucoup. C'est elle qui a écrit des textes qui s'appellent « Une logique du vague ». Et elle a écrit un autre texte fantastique, c'est « La mort des philosophes ». Et c'est la manière dont, alors depuis les pré-socratiques jusqu'à Hegel, c'est la manière dont nous, plus tard, nous avons bien voulu reconstituer une certaine mort ou fabriquer un récit de mort pour ces philosophes, pour que ça corresponde à leur philosophie sans que ça ait un rapport avec leur mort. Donc là, par rapport à la non-finitude et ce que toi tu fais, par exemple, par rapport à Beckett et Debussy après leur disparition, donc tout ça c'est intéressant de voir comment le temps aussi, notre regard sur les autres,
reconstitue en fait des êtres tout à fait autrement que ce qu'ils étaient. Voilà. Des petites notes.
Ouais, pour cette idée de géographie des Grecs, en fait, ça a continué assez tard parce que jusqu'au 15e, 16e siècle, les atlas du monde, et notamment ce qu'on appelait les isolaires et les portulaires, en fait, donc c'était pour dessiner les îles, on dessinait. L'atlas ne ressemblait pas du tout à l'atlas qu'on connaît aujourd'hui, mais on dessinait l'île et on y articulait des phrases qui étaient les légendes reliées à cette île. C'est-à-dire que toute la dimension culturelle, légendaire, discursive, qu'aujourd'hui on sépare de la physique, en disant bon, d'un côté il y a la nature, de l'autre côté il y a la culture, eh ben, c'était complètement mêlé. Et avec l'arrivée, de, disons, au XVIe siècle des sciences modernes, on a purifié ça, on a mis d'un côté le discours, disons la dimension discursive, et de l'autre côté, disons la géométrie. Et on a fait des repères et on a fait des atlas sans les légendes qui vont avec. Mais c'est assez récent en fait, il y a encore 5 siècles, on avait les deux imbriqués. Et ce qui correspondrait pour l'œuvre d'art ici, ce serait de dire que bah, toutes les autres dimensions d'une œuvre, par exemple la dimension visuelle ou discursive pour une œuvre sonore, mais la dimension sonore pour une sculpture, eh ben, ça serait imbriqué. Je sais pas si ça...
Moi, je pense que j'ai une petite gêne à voir que cette œuvre appelle apparemment de manière automatique une envie de la catégoriser et puis après de la décatégoriser. Alors que pour moi, pour la sensation que j'ai eue en vous écoutant et en regardant, vous avez convoqué des auteurs qui sont assez précis et qui viennent d'un univers. Chacun a son univers, ils viennent d'un univers et cet univers ne nous appartient plus. C'est-à-dire que quand Beckett parle de finir, Beckett qui lui est écrivain et musicien, qu'est-ce que veut dire finir dans le langage d'un musicien? Par exemple, pour Bach, finir une phrase musicale, qui n'est pas la même façon pour Mozart de finir une phrase musicale. Et que pour nous qui sommes sortis de ça, nous sommes largués comme un Ravel peut être largué, c'est-à-dire que nous sommes sortis du rythme. Moi, ce qui me plaît et ce qui me parle dans ce travail, c'est que au lieu de chercher à voir ce que l'absence raconte ou ce que l'absence de musique peut raconter, que ça soit en discours ou la ramener au langage, supporter, se tenir devant, supporter le fait que aujourd'hui il y a un manque de ça. Quand Beckett est musicien, quand il joue et ceci et cela, quand Paul Klee est violoniste, mais pas n'importe quel violoniste, c'est-à-dire qu'il a même été amené à remplacer un premier violon dans un orchestre important. Quand Cézanne est organiste important, et quand, c'est-à-dire que la musique était tellement liée et les arts tellement reliés qui faisaient que ces gens-là, quand finir voulait dire quelque chose. Et quand, par exemple, vous dites, et je trouve ça très parlant, que Beckett supportait tel musicien et pas tel autre, et qu'il disait, c'est magnifique ce que vous dites, il disait, sachez que jusqu'au bout, j'essayais de de trouver les mots. Beckett est intéressé par un monde habité. Et Beckett veut nous témoigner que jusqu'au bout, son monde était encore habité. Mais nous sommes aujourd'hui dans une forme de vie artistique et langagière et existentielle très éloignée de ça. Et pour nous, au lieu de se tenir devant ce manque et de l'interroger, on va très très vite et trop rapidement embarquer les choses dans notre compréhension et surtout dans notre incompréhension. Et peut-être qu'on peut supporter de ne pas se comprendre, tout simplement.
Oui, c'est bon. Par rapport à ce que vous dites, catégoriser ou ne pas catégoriser, en fait, vous voulez dire
on peut parler ou ne pas parler de cette pièce, et à la limite, ce n'est pas nécessaire d'en parler. Elle existe, elle est là, et c'est important de circuler dedans, et ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas. Finalement, c'était important de mentionner que ces deux individus sont morts, et je n'aurais pas pu travailler sur cette mise en espace et ce vis-à-vis Beckett-Debussy s'ils avaient été vivants. Et dans tous mes travaux avec ce que j'appelle l'imaginaire sonore, je vais essayer de trouver un nouveau terme à partir de... c'est toujours avec des artistes, des personnages décédés qui, pour moi, sont, du fait qu'ils sont partis, disponibles. Quelqu'un qui n'est plus là est disponible pour ce type d'intervention. Et effectivement, donc c'est une pièce qui existe parce que les deux sont morts. C'est fini. C'est fini pour eux. Ce faisant, ça rend la chose possible pour moi. Et de ce point de vue, je me sens très libre par rapport au travail que je fais, mais pas libre de faire n'importe quoi non plus. Et cette pièce m'a donné beaucoup, beaucoup de fil à retordre. J'ai eu beaucoup de difficultés à la finaliser. Entre autres, pour ce qui est des prélèvements, des bribes de texte, essayer d'ouvrir Beckett comme Debussy est ouvert, de sorte que ça soit possible pour nous d'avoir une relation, finalement. Et oui, vous mentionniez les artistes qui faisaient de la musique, les écrivains qui faisaient de la musique. Dans mon travail autour d'imaginaire sonore, toute la série qui s'appelle Le théâtre du son, et beaucoup, entre autres, toute une partie axée sur ça, le fait que des écrivains étaient musiciens, que des artistes étaient musiciens, que des politiciens étaient musiciens, que des philosophes, etc. Il n'y a pas que les musiciens qui ont fait de la musique, mais dans certains cas, et Beckett est un cas particulier, Beckett était musicien, mais il était plus que la moyenne. Beckett disait « Toute mon œuvre est une affaire de sons fondamentaux » et il a pratiqué, il a joué du piano toute sa vie, il a été en contact avec des compositeurs, avec des interprètes, il a composé des œuvres. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire qu'on a parole et musique, où les paroles et la musique sont un personnage chacun. La musique est un personnage en vis-à-vis avec les... Et donc, toute son œuvre, toute l'œuvre de Beckett est traversée par une réflexion, une pensée et une pratique musicale, et même une interrogation, un dialogue avec des compositeurs, des praticiens de la musique. Ça fait que c'est, par rapport à d'autres écrivains, tantôt on parlait de Rimbaud, je pense que c'est toi qui as évoqué Rimbaud, Rimbaud voulait jouer du piano en 1875, il y a une sorte de... Et je crois qu'il avait fait venir... un piano à Charleville, puis pendant un certain laps de temps, il joue du piano, il tente d'en jouer, et j'ai fait un disque avec ça. Au fond, c'est tout simplement de dire, c'est ça, le disque, si on veut le disque, on le fait. Voilà, Arthur Rimbaud, piano, 1875. Terminé, le disque existe. Mais c'est sûr que pour Rimbaud, la musique n'a pas tenu une place aussi importante que chez Beckett, et que Rimbaud n'était pas du tout un musicien avec une connaissance sophistiquée. Beckett, il est très sophistiqué côté musique. Et quand, par exemple, il rencontre Martin Feldman, c'est vraiment une rencontre au sommet entre deux individus qui se comprennent très bien par rapport à une certaine sophistication du rapport des mots et de la musique, par exemple, dans une œuvre. Par contre, en rapport avec Rimbaud et l'installation ici, ben, la question de finir, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que lui, il abandonne, il arrête. Il aurait pu continuer, mais sa vie prend un autre chemin, et donc il y a des gens qui arrêtent. Mais on sait que lui, c'était un poète à un très haut niveau. Alors, pourquoi il a arrêté? Bon, ça, c'est une autre... Il y a des gens qui arrêtent, en fait. C'est que... Comme chez Beckett, il était dans l'impossibilité d'arrêter. Et jusqu'à la fin, et jusqu'au bout, il cherche plus le temps. Il veut tout le temps, quelque part, voir si le prochain texte ne sera pas le texte qui va mettre un terme. Ce texte va être tellement évident, et c'est le texte ultime qui va mettre un terme et qui va peut-être lui permettre de s'arrêter. Et il n'y arrive pas. Et par contre, il y a des gens qui, eux, s'arrêtent. Et alors, dont on se dit...
C'est une belle transition.
C'est la transition. Ou en tout cas, je vous invite à continuer autrement... de manière plus informelle. En tout cas, merci beaucoup à Raymond, Gervais, Jacinto,
merci Alexandra,
et merci Jacinto, pour cette belle rencontre.